Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes, en DAB+, ou sur radioallianceplus.fr. Je suis le docteur Jacques Jaume, je produis et j'anime l'émission que vous écoutez et qui se nomme « Votre santé, un trésor ». C'est une sous-émission de « Votre santé, un trésor » que je vous propose aujourd'hui. Une sous-émission « Médecine et soins à Nîmes ». J'ai la grande joie de recevoir Madame Simone Girardet. Bonjour à vous, Madame Girardet.
Bonjour, Jacques.
J'ai connu Madame Girardet alors que j'étais étudiant en médecine à Nîmes en deuxième année. Je venais de réussir mes examens de fin d'année.
Oui.
J'avais donc mon été libre devant moi. Et comme je pensais que pour un futur médecin, il était indispensable de connaître le métier d'infirmier, j'avais postulé dans différentes cliniques de la ville de Nîmes. Madame Girardet, qui était directrice de la clinique des Sophora, m'a convoqué et m'a embauché comme aide-soignant à la clinique. À la clinique des Sophora, j'ai pu être aide-soignant, infirmier, interne et enfin médecin praticien. Ces périodes ont certainement marqué ma carrière. C'est curieusement aussi en deuxième année de médecine que j'ai connu le docteur Gérard Enfouxe, qui nous donnait des cours de psychologie générale. Grand érudit, médecin humaniste, innovant, il était passionné par l'hypnose et s'opposait au diktat de la psychanalyse. Étudiant, il nous a fait connaître l'hypnose et j'ai été séduit par cette pratique. Il m'a aidé pour réaliser ma thèse sur ce sujet. Nous avons réalisé une vraie démarche et une vraie étude scientifique en psychiatrie. Le docteur Léon Chertok, l'égérie de l'hypnose en ce temps-là, a été membre du jury de ma thèse. Le soir même, j'étais invité par la Société de psychiatrie de Montpellier pour une conférence avec Léon Chertok. Gérard Enfouxe, par la suite, a été mon maître, un ami, et j'ai siégé avec lui au Conseil de l'Ordre des médecins du Gard. C'est ce mentor que je voudrais évoquer avec Madame Girardet. Nous pourrions subdiviser cette évocation en quatre parties. L'enfance de Gérard Enfouxe, son adolescence et l'étudiant en médecine, le médecin et sa carrière, l'humaniste et érudit qu'il était. Alors Madame Girardet, quel enfant était Gérard Enfouxe, vous qui l'avez bien connu? Et d'abord, présentez-nous par rapport à Gérard Enfouxe. Présentez-vous par rapport à Gérard Enfouxe.
Alors, je n'étais pas la directrice de la clinique, je rectifie.
Je me suis trompée.
J'étais la responsable du personnel après avoir fait une dizaine d'années de soins comme infirmière.
Vous êtes infirmière?
Je suis infirmière diplômée. Et puis, on a eu besoin de quelqu'un qui veuille accepter de gérer le personnel. Ce n'est pas chose facile.
Alors, nous sommes en quelle année là?
Alors, fin 70, j'ai pris après une grossesse.
Vous avez pris la responsabilité du personnel. Ben oui, j'étais persuadé que vous étiez, vous étiez la directrice. Même pour moi, vous êtes toujours la directrice, sauf moi.
C'est gentil, mais ce n'est pas tout à fait vrai, donc rectifiez.
Oui, maintenant que vous me dites, il y avait un monsieur. Vous avez toujours été la personne référente à la clinique.
Ben oui, parce que j'ai commencé un an après. La clinique s'est ouverte en 1957. Et moi, après, à 21 ans, on ne pouvait travailler que majeur.
Et oui.
Je suis venue travailler. Donc, je suis née en 38. Je suis venue en 59.
Et alors, quels sont vos liens avec Gérard Enfouxe?
Alors, nos liens sont familiaux, nous sommes cousins, nos mères étaient cousines germaines et ont toujours...
Petits cousins, comme on dit.
On est petits cousins. Il n'avait pas d'autres cousins, ses parents étant fils unique et fille unique, donc il n'y a pas eu d'autres...
Oui, donc vous étiez quelqu'un de proche. Il avait un frère.
Alors, un frère décédé tragiquement piqué par des abeilles un jour qu'il faisait une... vérification dans un masé dans les vignes. Et...
Donc en fait, une fois ses parents disparus, il était seul, vous étiez sa famille la plus proche.
Ah ben, on a toujours été proches puisque nous avons toujours habité dans les mêmes maisons.
Alors racontez-nous.
C'est simple, à l'époque, les parents habitaient beaux voisins où ils étaient viticulteurs. Et quand l'aîné est venu au lycée d'Oudé à Nîmes, je pense qu'il n'y avait peut-être pas encore d'internat.
L'aîné, c'est...
C'était Robert.
Robert.
Donc, il avait 3 ans de plus que Gérard. Et ils ont acheté une maison à la rue Porte d'Alès, où Gérard, après, a fait son cabinet
de médecine libérale.
De médecine. Donc, mes parents s'étant mariés à cette période, les deux cousines ont continué à cohabiter ensemble, puisque à l'époque, les filles ne travaillaient pas. Et ma mère gardait les petits cousins, puisque à Beauvoisin, ils habitaient aussi côte à côte.
Donc, vous étiez avec Robert, le frère de Gérard Enfaux. Gérard Enfaux, c'est vous, cousin compagnon de jeu d'enfance.
Alors, pas tout à fait de jeu, on a quand même un écart de 13 ans. Mais en tous les cas, on se voyait très souvent.
D'accord, et donc vous vous rappelez de cette enfance?
Alors, je me rappelle surtout, je devais avoir à peu près 10 ans, lorsqu'il m'a dit, écoute, quand tu seras grande, tu feras tes études d'infirmière. Moi, j'ouvrirai une clinique qui était encore qu'un projet.
Oui, c'est un projet.
Et nous travaillerons ensemble.
Donc, il avait déjà des projets. Et donc, il avait 23 ans quand il vous a dit.
Voilà. Et moi, j'étais encore en primaire.
Et oui.
Donc, je suis partie. J'étais tout le temps à la campagne, dans la cour de la propriété, avec les hommes. Nous parlions le patois. Enfin, ils me parlaient patois.
Et qui ça
À Beauvoisin.
Ah oui, les gens parlaient patois, oui.
Ah, mais toute la famille connaissait, ne le parlait pas, mais le connaissait parfaitement. Ouais. Les hommes à la propriété ne connaissaient que le patois.
Et donc, vous avez vécu à Beauvoisin?
Alors, j'y allais pour mes vacances et j'y allais surtout pendant la guerre.
Oui, c'est ça. Oui.
Voilà, donc ses parents me gardaient, il n'y avait pas de filles. Donc,
il a fait ses études primaires à Beauvoisin, l'école communale de Beauvoisin.
À l'école communale.
Et puis, il a fait ce qu'on appelait avant ses humanités au lycée Alphonse Daudet.
Voilà, il est venu à Daudet et puis il est allé à la faculté de Montpellier.
Donc il a eu son bac.
Il a eu le bac, il a eu le concours d'entrée à la...
Et jusqu'au bac, après on reviendra sur ses études de médecine. Qu'est-ce qu'il faisait pour se distraire? Il lisait
Alors, c'était pas un sportif, mais il était toujours à faire des lectures, il prenait des notes, c'était plutôt un intellectuel.
Ouais, ils habitaient la maison qu'il habitait quand il était...
Il habitait à la rue Porte d'Alès, le premier étage, et mes parents habitaient à côté, sur
mais
le
quand
même.
Il était à Beauvoisin, il habitait la maison qu'il a toujours habitée.
La maison qu'il a toujours habitée.
Donc il y avait deux maisons. Quand il était à Beauvoisin, il habitait la maison où il a comment passé sa vieillesse. Et à Nîmes, il avait la porte d'Alès, où là, il pouvait aller au lycée. Et...
Voilà.
Donc plutôt... Un garçon, un adolescent, un jeune adulte érudit qui était dans la lecture, qui était un intellectuel plutôt que...
Très souriant et très calme.
Très très calme. Ça, il a toujours été
très calme. Il a
son métier par rapport en face des patients qu'il avait, il était très calme, c'était impressionnant. Et alors, cet adolescent que vous nous décrivez, sa vocation, il a toujours voulu être médecin. Vous nous dites dans ce projet où il a inclus de cette clinique... Oui. Il devait être médecin, vous devez être son infirmière, s'occuper de la clinique. Donc le but de sa vie, son projet, c'était d'être médecin.
De faire une clinique.
Ah, c'était de faire une clinique et il a été médecin pour faire une clinique.
Pour faire une clinique, étant sous-entendu que moi,
vous
j'irais...
Vous travailliez à la clinique.
Voilà.
Étiez vraiment très très proche, vous étiez intime.
On était très proches,
et
oui.
Cette intimité, bon, à part la clinique, moi je vous ai connu, j'ai connu... Jean Faux qui était à la clinique, mais enfin, je ne l'ai pas connu à la clinique.
Non.
Il était
à l'hôpital.
Il travaillait à l'hôpital. Mais vous avez gardé cette intimité jusqu'à son décès.
Oui, parce que j'ai dû après l'accompagner après sa maladie. Et on avait signé un pacte.
Un pacte de
famille. Non écrit.
Oui, non écrit comme...
Mais si je peux plus me suffire, ben tu t'occuperas de moi.
Oui, vous avez été très liés. Donc c'est une grande joie pour moi de vous recevoir parce que vous racontez un peu la vie de cet homme qui a marqué la psychiatrie à Nîmes, puisque la psychiatrie à Nîmes, c'est lui qui l'a créé. On en reparlera. Hein, qu'il a été un des premiers psychiatres, puisqu'il a été chef de service. Hein, il a pris la suite du docteur Pitot, mais qui était neuropsychiatre et lui, il a choisi la psychiatrie. Et donc il a fait médecine pour faire une clinique. Mais est-ce qu'il vous parlait quand même des malades qu'est-ce qu'il pourrait dans sa vie avoir concrétisé ce projet? Est-ce qu'il...
Alors, ses parents ont pu l'aider financièrement à bâtir les sophorades.
Voilà, donc il avait quand même les moyens de faire des études, ce qui était... Enfin, c'était pas comme maintenant. Ben, il avait les moyens de...
Sa famille. Et puis, c'était une clinique qui avait 36 lits au début.
Oui. Mais ça, la clinique, on fera une émission spécifique pour la clinique. D'accord. Mais lui, est-ce que, bon, il avait le projet de faire une clinique, mais est-ce qu'il vous a dit pourquoi il avait fait médecine? Parce que, je sais pas,
Son frère avait envie de faire pharmacie, mais il fallait garder la propriété, ouais. Donc il n'a pas pu. Sa mère me disait, tu vois, de mon temps, j'aurais voulu être infirmière.
Ah,
et c'est peut-être pas pour rien que moi j'ai fait des études d'infirmière et que mes enfants ont fait de la recherche médicale.
Ah, vous pensez que
c'était un peu dans
oui,
l'air de la famille.
Oui, c'est-à-dire, sa maman aurait aimé être infirmière. Son frère voulait être pharmacie, mais il ne pouvait pas parce qu'il était l'aîné, donc il fallait que la propriété survive pour que la famille survive. Et donc Gérard dit, mais je vais faire une clinique. J'aurai une infirmière, ça serait vous, et je serai médecin pour pouvoir créer la clinique. C'est
mais
un peu comme ça.
Voilà, j'avais 10 ans, je savais déjà ce que je ferais plus tard.
Et pour vous, depuis qu'il vous avait dit que vous seriez infirmière, c'était votre projet?
C'était notre projet commun.
Et vous avez fait vos études, vous m'avez dit?
À la maison de santé protestante.
Alors, à la maison de santé protestante, avant que la maison de santé protestante ne soit plus, il y avait une école d'infirmières.
Tout à fait.
J'ai donné des cours. Hein.
Oui, c'était... lui aussi.
Lui aussi, oui, oui, j'étais pas seul. Beaucoup de médecins qui
sont
ni
passés,
moi, qui donnaient des cours. Et
tout à fait.
Voilà, et donc on pouvait pratiquer avec la maison de santé. La maison de santé, pour moi, est quand même un établissement important parce que je faisais la prise en charge de la douleur, soins palliatifs à la maison de santé, avec une éthique, une façon de faire la médecine qui était intéressante. C'est dommage que des établissements comme ça n'existent plus, quoi. Mais ils ont souvenu, puis ils ont formé des médecins, quoi.
Oui.
Donc ce lien avec vous était très fort, et vous l'avez eu tout...
Jusqu'à la fin.
Voilà, jusqu'à la fin. Et oui. Même quand il n'était pas bien, il était chez lui, vous continuez à le voir, vous occupez de lui, etc.
Alors,
il était entouré par sa famille, quand même.
Alors, il était entouré, mais personne n'habitait sur place, à part ma sœur, qui est venue prendre sa retraite à Beauvoisin, dans la maison de nos grands-parents communs.
Oui.
Donc, Gérard lui a revendu l'appartement de ma grand-mère.
Oui, oui.
Et...
Il était à Beauvoisin, c'était une personnalité. Moi, j'ai eu la chance, tout juste, quand j'ai pu faire des remplacements, de faire un remplacement de médecine générale à Beauvoisin. Ça allait bien parce que j'étais un élève de Gérard Enfoux, que je connaissais bien. Donc,
oui.
C'était bien, quoi. J'étais un peu chez moi.
Et d'autant plus que son père avait été... Maire de Beauvoisin.
Oui, c'était une famille importante de Beauvoisin.
Ben, son père était, à 26 ans, tout le conseil municipal de Beauvoisin avait été décimé à la Première Guerre. Et son père parlait le français.
Mm-hmm.
On parlait
oui,
plutôt
ça,
le patois à l'époque.
Ouais.
Et puis surtout, il avait déjà fait, c'était comme Gérard, un scolaire.
Ouais,
il avait fait déjà
un
intellectuel, ouais. Il connaissait l'italien. Et l'allemand,
très bien.
Son père lui ayant dit, il faut apprendre la langue des vainqueurs.
J'ai jamais entendu parler de docteur Enfoux, une autre langue que le français. Mais Gérard Enfoux était protestant, nous en avions parlé un peu ensemble.
Ah, il était d'une famille tout à fait protestante.
Et alors, je lui avais posé la question, pourquoi n'avez-vous pas fait des études de théologie pour devenir pasteur? Je me rappelle, je lui avais demandé, parce que c'était, pour moi c'était important, parce qu'il avait un charisme, il connaissait la religion, l'histoire,
oui.
Tout ça. Il m'avait répondu, comme un psychiatre peut le faire, hein. C'est trop obsessionnel. Tout était là avec Gérard Enfoux. Je vous propose une trêve musicale avec la musique de Joseph Haydn, sa symphonie numéro 49 en fa mineur, La Passion. Je vous rappelle que vous écoutez Votre Santé en Trésor, une émission produite et animée par le docteur Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus 103.2 FM. Thank you. Vous écoutez Votre Santé, un trésor, une émission produite et animée par le docteur Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. Nous recevons aujourd'hui Madame Simone Girardet qui évoque avec nous le docteur Gérard Fuchs. Alors, une fois sa thèse soutenue, quelle a été sa carrière de médecin? Alors, il a été médecin libéral, il avait choisi de pratiquer la neuropsychiatrie. Il faudra peut-être que j'explique un peu à l'époque. Il y a la création des Sophora, la clinique. Il a été médecin hospitalier, chef de service de neuropsychiatrie, puis de psychiatrie au CHU de Nîmes. Donc à l'époque, Gérard Rampouce passe sa thèse. Est-ce que vous vous rappelez le sujet de sa thèse?
Non.
Non. Et vous vous rappelez avoir été à Montpellier lors de la passation de sa thèse? Vous ne vous rappelez pas?
J'étais une gaminette.
Et oui, c'est ça, oui. Oui, parce que s'il a passé sa thèse vers 25, 26, entre 25 et 27 ans...
J'avais 10 ans, c'était la guerre aussi.
C'était la guerre.
La fin de la guerre. Alors les choses n'étaient
oui,
pas
c'était
si
pas
faciles.
Pareil, hein. Donc il est thésard, il passe sa thèse, devient docteur en médecine. Pourquoi il choisit la neuropsychiatrie? Alors à l'époque, la spécialité neuropsychiatrie, c'était neurologie et psychiatrie. C'est-à-dire que,
c'était commun.
Voilà, on faisait aussi bien les tumeurs du système nerveux que les démences, que la schizophrénie. Donc, il était neuropsychiatre. Oui. Dans les années 74, 75, 76, je ne me rappelle plus exactement, je crois que c'est autour de 75, la spécialité a été divisée. D'un côté, il y a eu la neurologie, d'un côté, la psychiatrie. Mais dans la neurologie, on entendait tout. Donc, je me rappelle qu'il m'avait dit qu'il avait choisi psychiatrie parce que ça l'intéressait plus. Mais c'était un très, très, très beau neurologue. J'ai eu l'occasion, moi, de voir des patients et ses examens cliniques. C'est un clinicien neurologue expert. Il m'avait raconté que pendant sa jeunesse, il allait faire des ponctions lombaires, parce qu'il avait fait des remplacements en ville, en campagne, il faisait des ponctions lombaires au lit du malade, ce que plus personne ne sait faire.
Sûrement
donc
pas.
La neurologie s'est divisée maintenant. Bon, il y a la neurochirurgie, il y a la radioneurologie, enfin, extrêmement de disciplines. Et la psychiatrie, il y a la pédopsychiatrie. La pédopsychiatrie s'est divisée, mais lui, il a choisi la psychiatrie. Donc, il s'est installé comme neuropsychiatre à Nîmes, rue Porte de France.
D'Alès,
pardon. Et donc là, il avait un cabinet libéral.
Libéral. Alors, il travaillait dès le début avec le docteur Jean Abric, qui était lui aussi neuropsychiatre, et qui, suite à des ennuis de santé, a abandonné le côté psychiatrie des Sophora et du cabinet, et n'a plus fait que le côté enfant.
D'accord, oui, d'accord. Et donc, oui, il s'est installé peut-être quelques mois seul,
oui.
Et puis il a préféré s'associer
oui.
Avec le docteur Jean Abri.
Avec lesquels il s'entendait parfaitement, ayant
mais
fait.
Il faisait de la neuropsychiatrie.
Oui, oui,
voilà.
Oui.
Et c'est-à-dire
ils ont ouvert la clinique ensemble.
Ah, ils ont ouvert la clinique
en 57.
57. Et donc, cette période de cabinet libéraux, est-ce que vous vous en souvenez? Pas trop.
Pas spécialement, parce que moi j'avais mes occupations mon côté. Je venais d'avoir un troisième enfant, je travaillais aussi.
On peut vous demander combien vous avez d'enfants?
Trois. J'ai trois enfants.
Une belle famille.
Et c'est à la suite de l'arrivée de la troisième que, voulant profiter un peu de mes enfants...
Oui, puis vous en occupez. Oui.
Voilà, j'ai demandé à travailler, à attendre, rester 6 ans. Simplement à venir à demi-temps l'après-midi.
D'accord.
Donc,
la clinique.
À la clinique.
Et donc, là, il est tout de suite rentré à l'hôpital. Parce qu'avec la guerre, on manquait de médecins.
Il a dû prendre la suite du docteur
Pitot. Je ne me rappelle plus de son prénom, docteur Pitot.
Alors,
il y a une rue.
Il y a une rue Pitot.
Pitot, oui, c'est du côté de la Cernime. Et donc, le docteur Pitot, lui, était chef de service. Pas au CHU, parce que ce n'était pas un CHU, c'est un CHR, c'est,
oui.
Rue Hoche.
Oui.
Et donc, il s'occupait de la neurologie. Donc, il y avait des pathologies, vous aviez tabès, syphilis neurologique, les tumeurs,
oui.
Enfin, je dirais.
Oui.
La psychiatrie, comment avec les psychoses étaient les mêmes que maintenant, etc.
Enfin, plus fortes,
voilà,
parce que la pharmacie n'avait pas tant évolué.
Il n'y avait pas au niveau pharmacologique, il n'y avait pas tout ce qu'on a, donc c'était important. Donc le docteur Pitot, lui, c'était le chef de service de la neuropsychiatrie, et Gérard Fuchs est devenu son assistant, il est rentré tout de suite dans le service.
Oui, seulement il a dû abandonner les Sophora. Parce que
quand il s'est installé, en même temps, il a créé les Sophora.
Il les a créés en 59, donc voyons.
Oui, il s'est installé un an ou deux après, il créait la clinique.
Voilà.
Mais rappelons que son but, c'était de créer une clinique.
Ah, c'était son but dès une clinique psychiatrique. Parce qu'il trouvait que les malades, on n'avait rien. Il se souvenait avoir connu à Montpellier des agités enchaînés.
Oui, il me rappelait, parce que je le questionnais beaucoup sur l'histoire de la médecine passionnée. Alors, il avait quand même connu le médecin qui avait soigné Van Gogh,
oui.
Donc, il connaissait très bien la pathologie de Van Gogh, et il avait connu le médecin qui avait soigné Van Gogh, il avait été le voir, il avait parlé du cas de Van Gogh, donc c'est extraordinaire. Et donc, il était très marqué par les aliénistes, c'est-à-dire que c'était les médecins qui prenaient en charge les grosses pathologies psychiatriques. Donc, en fait, on les mettait sur de la paille, on les enchaînait, on les douchait. Enfin, je veux dire, c'était des traitements qui étaient extrêmement violents. Je me rappelle qu'il avait, une aversion pour ce genre de thérapie. Et alors, lui, c'était au contraire la compréhension, la douceur, le rapport avec les patients. On pourra dire quand même qu'il a animé un club thérapeutique, dont moi j'ai été son interne, donc je l'ai vu travailler. Club thérapeutique, il y avait un local et les patients venaient, ils les recevaient, ils vivaient avec eux. C'était un mode de soins, un club thérapeutique qui était quand même passionnant, innovant. Et on le voyait, beaucoup de médecins d'autres régions, d'autres départements venaient voir comment on faisait ces clubs thérapeutiques. Donc, il avait la clinique, le cabinet, il était donc à l'hôpital, et le docteur Pitot, il prend sa retraite, enfin, il cesse d'être... Donc là, il devient chef de service.
Donc, à ce moment-là, il n'a pas pu continuer à gérer une clinique privée.
Voilà.
Donc, il a dû abandonner son rôle au Sephora, qui était la clinique tournée.
Voilà,
il avait de bons aides, de bons collègues dedans.
Il hospitalisait, soignait les gens à la clinique.
Voilà, donc tout
il avait
était...
son cabinet privé, porte de...
D'Alès.
Et donc là, quand il devient chef de service de neuropsychiatrie, il abandonne le libéral.
Tout ce qui est thérapeutique, ça ne l'empêchait pas de venir nous dire un petit bonjour.
Oui, ça, bien sûr, il a gardé des liens, puis il était quand même fait actionnaire, etc. Donc, je peux vous dire, une fois, on avait rendez-vous pour manger chez lui, avec des amis, et j'étais en train de préparer ma thèse, et donc on devait manger chez lui, et puis on a la porte close, parce qu'il nous avait invités, mais il avait oublié qu'il avait un conseil d'administration au Sephora, donc on est allé manger une pizza à côté, à Beauvoisin, mais c'était très bien. Mais c'est un peu Gérard, ça. Et donc il a été chef de service, rue Hoche, la neurologie, et la psychiatrie.
Et la psychiatrie, oui.
Et donc après, quand il y a eu scission entre neurologie, il a choisi...
La psychiatrie.
La psychiatrie, il est devenu donc chef de service...
Chef de service de psychiatrie.
Alors il était chef de service de psychiatrie A, parce qu'il y avait deux psychiatries. Alors je ne peux plus en parler, parce que là, c'est à ce moment-là où j'étais interne. Et je ne me rappelle plus de l'autre médecin qui était... C'était Chabran, docteur Chabran.
Peut-être le docteur Chabran.
Donc, il était chef de service de psychiatrie A, et docteur Chabran était chef de psychiatrie B. Et donc, c'est eux qui étaient à Carrémaux. Il y avait un service, un bâtiment pour la psychiatrie, premier étage et deuxième étage. Et c'était un des premiers bâtiments de psychiatrie. Donc, il était patron là-bas. Et il n'y avait à Carrémaux que le bâtiment de rééducation fonctionnelle. Ça fait que moi, j'ai été interne en psychiatrie, mais quand on était interne en psychiatrie, on avait un appartement pour la garde, on faisait des gardes, mais on était aussi interne de garde pour la rééducation. Donc ça, je vous dis, Donc, c'est là que je l'ai connu en tant que... Mais il avait toujours gardé des liens avec l'université, et c'est là où je l'ai connu quand il nous avait fait des cours de psychologie générale. Donc c'était passionnant parce qu'il faisait des cours magistraux, c'est-à-dire qu'il faisait chaque année un cours différent, comme on faisait avant. Il mettait évidemment le programme dans ses cours et c'était extraordinaire. Il m'est arrivé quand même aussi durant ma carrière de lire des comptes rendus de consultation et d'examens complémentaires qu'il avait réalisés. C'est-à-dire qu'un jour, une patiente est arrivée en disant « j'ai eu ça », il m'a montré un compte rendu d'examen que le docteur Enfoux avait fait. J'ai lu aussi des expertises, et c'est un grand expert, il est expert près du TGI de Nîmes. Oui. J'ai assisté en l'accompagnant, parce que je lui avais demandé, des comptes rendus d'expertise à la cour d'assises de Nîmes, qui était d'une richesse, d'une précision, d'une minutie, d'une conscience exceptionnelle. C'est un grand érudit, un grand médecin. Il serait certainement désespéré en voyant ce qu'est devenu la psychiatrie actuellement. Je remercie infiniment Mme Girardet pour son témoignage, si vivant, et sa présence. Merci à vous, madame.
Je vous en prie, c'était un plaisir pour moi aussi.
J'ai l'habitude de finir cette émission par une rubrique de fin d'émission, des livres sur la santé aujourd'hui, mais il n'existe pas de livre sur le docteur Gérard Fuchs. C'est un vide qu'il faudra absolument combler, peut-être, un projet. Toutefois, je me réserve la possibilité de refaire une émission sur un de mes maîtres, c'est-à-dire le docteur Gérard Fuchs, qui le mérite bien. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre attention et de l'écoute de Votre Santé, un trésor sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. À bientôt, je reste votre bien dévoué.